mais il était encore presque entier. Enfin, il manquait des morceaux. Mais...
Tu veux dire que par exemple là, c'était un peu opportuniste, t'as entendu ouais. Dire qu'il y a un arbre qui est tombé, donc.
Pas tout à fait qui est tombé. En fait, c'est avec le bûcheron avec lui, qui me fournit mon bois, lui, il a l'habitude de couper des arbres pour des scieries. Et aussi des commandes de privés qui ont besoin d'enlever un arbre chez eux. Donc quand il a des bonnes occasions, il me donne un téléphone et à ce moment-là, je vais voir. Et là, il avait c'était un set qui était dans un parc d'un château, dans la chaîne de Belden, près de Grenoble.
Ah oui, tu vas loin pour les, ouais. Les trouver. C'est vrai.
Ben,
ici, il n'y a pas d'arbres.
Près de Marseille, tu ne trouveras pas d'arbres. Hein. En tout cas, tu n'en trouveras pas des comme ça. Enfin, ici, il peut y avoir quelques-uns, mais c'est rare. Alors que là-bas, il y en a beaucoup. Oui. Et donc j'ai été voir l'arbre qu'il avait fait déjà tomber, mais il avait enlevé les grosses branches. Mmh. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit c'est super, mais il faut des petits morceaux, sinon je peux plus les bouger.
Et que c'est ça, comment tu là, fais pour 1m50, prendre
1m50, c'est là il fait 1m50 de long, enfin de haut dans ce sens-là, vertical.
Oui.
Et 1m20 de diamètre, on voit le plus large. On a calculé le ratio en poids pour savoir si je pouvais le bouger avec mon engin de vache, parce que après sinon. Lui, il me les livre, il me les pose avec sa grue, mais ensuite, tu peux rien faire. Ceux-là, ils devaient déjà être de cette longueur, plus ou moins, ou peut-être ils faisaient le double et qu'ils les a recoupés en deux. Parce que moi, je lui demande des longueurs que je peux manipuler, quoi. Et en fait, les billes de cèdre, quand elles étaient fraîches, les plus grosses, elles faisaient 1,5 tonne. Mon chariot élévateur, il a une capacité maximum 1,8 tonne. Donc après, c'est... Après, je peux plus bouger, quoi. C'est le problème du sculpteur, et surtout quand tu fais des gros trucs comme moi, c'est le stockage.
C'est plus qu'un problème,
c'est le nœud de l'histoire.
Ouais, c'est le nœud de l'histoire. T'as pas un autre lieu où tu stockes ?
Non. Alors, j'essaye d'avoir le maximum de sculptures en exposition et qui tournent à droite à gauche. Là, j'en ai pas mal en ce moment qui sont ailleurs, dont une énorme baleine que je viens juste de finir. Qui prenait tout l'atelier quasiment et qui est suspendu dans des arbres dans le domaine dans le parc du domaine de Visil près de Grenoble. C'est un parc de château et la baleine s'appelle Mémoire d'eau. C'est une baleine que j'ai fait en résine blanche et qui raconte un peu l'histoire de ce territoire à l'époque où l'océan primitif occupait le terrain. Donc il y a 150 millions d'années à peu près, l'océan primitif couvrait l'Europe, une grande partie de l'Europe et en partie les Alpes. Donc je ne sais pas moi précisément qu'est-ce qui sortait de la mer, est-ce qu'il y avait déjà des morceaux de montagne qui sortaient de la mer. Mais en tout cas, il y avait l'océan à cet endroit-là et du coup ça me fascine de me dire que peut-être il y a eu des baleines. Bon, après, en me documentant, j'ai compris que non, il n'y avait pas encore de baleines, car les baleines sont apparues il y a seulement 32 millions d'années. Donc, il n'y avait pas de baleines quand il y avait l'océan primitif. D'autres animaux sûrement fantastiques et peut-être beaucoup plus gros encore que les baleines.
C'est possible.
Donc, j'ai voulu reproduire cette idée et en accrochant une baleine suspendue dans les arbres, et donc on peut circuler en dessous. C'est comme si elle nageait au-dessus de nous, dans la forêt, quoi.
C'était une très grosse pièce, pas en bois, en résine.
C'est une très grosse pièce en résine.
Quelle matière ? En résine.
Quelle dimension alors ça fait ?
Elle fait 8 mètres de long. Là, elle est accrochée à entre 3 et 12 mètres à peu près, ou 10 mètres, je ne sais pas, parce qu'elle est très inclinée.
Et quand tu fais une pièce aussi grande, c'est les étapes de travail que tu mets en place et...
Les étapes de travail, c'est un peu les mêmes, quel que soit le format, mais c'est d'abord quelques croquis. Bon, en général, il y a d'abord une idée. Souvent, ça met du temps à mûrir vraiment. Donc ça peut être une idée et puis qui se concrétise que 6 mois, 8 mois, 1 an après. Dès que ça commence à être suffisamment mûr dans ma tête, je fais des croquis, je fais des dessins et... Quand je sens que c'est le bon moment, je commence le travail. Donc en général, pour un gros format comme ça, c'est beaucoup de temps de préparation.
Merci.
Ouais, c'est beaucoup de temps de préparation pour essayer de dessiner comment je vais partitionner la pièce, parce que du coup c'est forcément en plusieurs morceaux quand c'est très gros comme ça, et il faut réfléchir à quel type de bloc je vais prendre pour faire quelle partie et comment ça va s'assembler après. Là, je voulais que ma pièce puisse être démontable, donc il faut réfléchir où on coupe, comment ça va se boulonner, etc.
D'une certaine manière, c'est...
Là, c'est en quelque sorte, c'est ça. Bon, là, c'est très simple, parce que là, il y a, sur ce personnage dans le bois, il y a deux billes de bois, une en haut, une en bas, et c'est boulonné entre les jambes. C'est un personnage qui est debout. C'est boulonné entre les jambes par une grosse tige qui vient écraser l'un sur l'autre. Il y a des éléments qui permettent d'éviter que ça puisse tourner comme ça.
Et alors là, on voit que c'est des trucs qui sont taillés, des sculptures qui sont taillées dans le bois. Et quand tu parles de cette baleine qui est vraiment dans des dimensions très importantes, beaucoup plus grand encore que ce qu'on voit là, qui est déjà très grand.
Ouais.
Et tu parlais de...
De blocs.
Je sais plus. Oui, tu parlais de blocs et de taille, ouais. Mais du coup, c'est des blocs.
Alors
des
là,
blocs
oui, oui. Quand je fais de la résine polyester, en général, c'est je le fais à partir de blocs de polystyrène. C'est un polystyrène qui est très très dur, qui ressemble pas à celui qu'on connaît, qui se défait facilement en billes blanches. Il est blanc aussi, mais c'est un polystyrène qui est très compacté et qui sert normalement à faire du dallage. On le met dans les dalles de béton pour pouvoir dans les parkings, par exemple. Pour que les véhicules puissent rouler dessus, donc il a un taux de compression qui est énorme. Et ce qui fait que j'achète des blocs directement à l'usine, et ensuite je coupe, là on en voit un qui est là-haut, oui. Et ensuite je prends donc ces blocs et je fais un collage de façon à utiliser le minimum de matière par rapport à mes besoins. Donc je vais réfléchir déjà dans la façon de coller les blocs, à quelle forme va en sortir pour ne pas gâcher... Par exemple, si je fais un personnage debout, je ne vais pas prendre un énorme bloc dans lequel je vais sortir le personnage en entier. Je vais faire un assemblage de blocs. Les blocs qui correspondent aux jambes seront plus petits. Et puis, pour le buste, un morceau plus gros. Et tout ça, c'est collé ensemble. Ce qui fait qu'il y a déjà une préforme sous forme de blocs avant que la sculpture apparaisse.
Oui, pour qu'il y ait le moins de chutes et de pertes possibles. Et puis même le travail de... Le dégrossissage, il est sinon sans fin.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout dans un... Parce que le travail de dégrossissage, ça va relativement vite, mais c'est surtout dans un souci d'économie à la fois financière et à la fois de gâchis de matière. Parce que je trouve ça n'a pas de sens. Ça fait déjà... La sculpture monumentale, ça fait déjà beaucoup de déchets. Donc, si on peut réduire un peu, c'est quand même bien.
Ouais.
Donc, quand c'est des déchets de bois comme ici, bon, c'est bien, puisque...
Ça trouve un usage.
Ça part tout dans la cheminée. Ouais. Et puis la sciure, ça sert pour les potagers, ça sert pour les toilettes sèches. Donc il n'y a pas de déchets finalement. Avec le bois, avec le polystyrène, il y a un autre avantage quand même, c'est que toutes les chutes, je les essaye de les garder propres, c'est-à-dire sans colle, sans rien, et je les ramène à l'usine et ils refont le polystyrène avec.
C'est un recyclage en fait.
C'est recyclé, ils refont des blocs que je vais racheter après. Voilà. Mais donc c'est l'avantage, c'est que comme ça, ça part pas non plus à la déchetterie.
C'est un choix de ta part de travailler sur deux matériaux comme ça, qui sont quand même
très différents.
Pas opposés, mais quelque part un petit peu, quoi. Éloigné, quoi.
On peut dire que c'est un choix dans la mesure où j'ai travaillé d'abord que du bois pendant peut-être 10 ans, ou je sais pas mal de temps. J'ai travaillé que du bois, des grosses billes de bois. C'était des formats encore plus gros que ce qu'on voit là, ici. Et puis, après, j'ai commencé à avoir des problèmes un peu d'épaule et de santé, en fait. Donc, je ne pouvais plus trop soulever tout le temps des charges importantes. Donc, j'ai réfléchi à comment faire pour continuer à être libre dans mon travail, mais sans avoir autant de contraintes physiques.
Ouais, continuer une certaine taille de ton...
Ouais.
T'aurais pu réduire...
Oui, mais je voulais pas être limité par l'échelle, en fait. Taille, je voulais pas être limité par la... Ouais. Par le format. Je voulais pouvoir choisir quel format je voulais faire. Et donc, c'est ça qui m'a amené à chercher d'autres types de matériaux. Et puis, il y avait un autre facteur, c'était que... au début de mon travail en bois, je travaillais avec du bois de la ville de Grenoble, parce que j'habitais à Grenoble à ce moment-là, et que la ville de Grenoble me donnait... le bois des arbres qui coupaient dans la ville. Mais donc c'était un peu du tout venant, et parmi ce bois, il y avait beaucoup de bois qui n'était pas adapté à l'extérieur. Et comme mes sculptures sont en format imposant, elles vont généralement dans les jardins à la fin, quand les gens les achètent. Et ça posait problème finalement que le bois ne soit pas toujours adapté. Il y a des sculptures qui sont abîmées. Donc j'ai commencé aussi à chercher des matériaux qui étaient plus pérennes, avec lesquels j'avais moins de soucis. Après le bois, la résine, le polystyrène, j'ai fait aussi apparaître l'aluminium, la fonte d'aluminium. Et puis le bronze, puis d'autres. Voilà. Maintenant, j'ai un panel de matériaux que j'utilise en fonction des projets. Quoi. C'est pas tout le temps la même chose.
Alors, moi, je me demande justement. Il y a quelque chose qui est forcément très différent quand tu passes d'un matériau à l'autre. Enfin, en tout cas, quand on voit les sculptures taillées dans le bois, à la hache et à la tronçonneuse, on perçoit quelque chose de très différent. Là, j'imagine quand on a une sculpture en polystyrène. Ces sculptures de polystyrène, d'ailleurs, dont on n'a pas vraiment d'exemple là, elles ont quelle texture ou quel genre de surface quand elles sont terminées.
Bah, c'est aussi ça qui m'a plu en fait avec le polystyrène. Alors en effet, c'est deux matériaux qui sont presque diamétralement opposés. Le buste de gorille qu'on voit là-haut, lui, il est en fonte d'aluminium, mais il a été taillé en polystyrène à l'origine. Et la taille du polystyrène, je le fais avec un fil chaud. Donc, c'est le principe du fil à couper le beurre un peu, mais dans lequel on fait passer un courant de bas voltage. Ça fait chauffer le fil, c'est un fil résistif, il chauffe. Mmh. Et quand on le passe dans le polystyrène, c'est comme si on épluche le polystyrène en quelque sorte. Mmh. Donc ça fait des surfaces très lisses, propres, et avec des angles assez nets, presque comme le fait la tronçonneuse, sauf que la tronçonneuse rajoute la qualité des stries.
Oui, c'est ça, elle rip, elle...
Chaque dent vient creuser le bois, et donc là, c'est une marque que moi, je trouve belle, d'ailleurs, sur le bois, et qui donne un relief qui fait que la lumière accroche bien dessus. C'est ce qui me plaît. D'ailleurs, je cherche dans mes sculptures à laisser toujours le plus possible la trace de l'outil, à ne pas cacher non plus les vis, les...
Oui. C'est important pour toi de faire, c'est-à-dire il y a des artistes aujourd'hui maintenant
qui font beaucoup faire,
qui font plus eux, ils conçoivent le projet, ils font faire.
Ouais.
Toi, tu envisagerais, sans parler du problème des moyens, ça coûte cher, mais c'est quelque chose que tu ferais ou pas du tout?
J'ai besoin du rapport à la matière. Ouais. En plus, entre mon intention de départ, mes croquis et la réalisation elle-même, il y a toujours une différence qui peut être plus ou moins importante, mais il y a toujours une différence. Parce que au moment de faire, je pense que c'est pareil pour tous les artistes qui font eux-mêmes, quand tu fais, tu as un rapport avec le travail qui est en cours, avec la matière, avec ton énergie de chaque jour, qui est différente, et la lumière et plein d'autres facteurs. Et donc la forme va évoluer. Tu vas te saisir d'un potentiel accident pour finalement faire apparaître autre chose. L'intention de fond est la même, mais la façon d'y arriver évolue. Et ça, c'est important pour moi.
D'accord. Dans l'acte, quoi, il y a vraiment quelque chose de...
Ouais.
D'improvisé, on va dire, d'accident que tu tiens beaucoup.
Voilà, Après, quand je travaille en fonderie, par exemple... je crée le modèle et c'est le fondeur qui va réaliser la forme. Mais en fait, la forme qui en sort...
C'est du moulage.
C'est exactement la même forme, parce que c'est un moulage qui est fidèle au travail d'origine. Donc c'est, là, il y a des techniques qui nécessitent évidemment des interventions extérieures, mais qui sont pas de la création. Enfin, je demanderai à personne de sculpter à ma place. Je vois pas trop comment c'est possible, d'ailleurs.
Finalement, l'histoire de la fonderie n'est pas quelque chose qui pose vraiment la question de l'auteur, parce que depuis que la sculpture existe, il y a des fondeurs, et ça pose pas problème à Rodin ou à Michel-Ange de faire couler une de ses sculptures qui fait en plâtre ou en marbre, dans du bronze ensuite. Quoi.
Bien sûr.
Mais moi, ce que je me demande, c'est, enfin, là, au premier coup d'œil, moi, ce que je ressens devant ces sculptures en bois, c'est on sent vraiment la grande violence de la taille.
De l'acte, oui.
Ouais. Mmh. Et comme tu disais, on voit ces coups de tronçonneuse avec, on sent et on ressent le moment de la fabrication et la grande l'énergie et la grande violence qui se déploie à ce moment-là. Et ce que je me demande, c'est, oui, ça du coup, c'est quelque chose qui est forcément très différent dans les sculptures où tu utilises d'autres matériaux,
plus inerte,
polystyrène en particulier. Et du coup, comment est-ce que tu... Alors, j'aimerais bien savoir comment tu choisis l'un ou l'autre. Est-ce que ça change vraiment, finalement, dans ton choix? Qu'est-ce que sont les enjeux du choix? Et quelle est la différence dans le moment du travail? Enfin, voilà, quels sont les enjeux et les différences du choix du matériau?
Par rapport à ce que tu dis de l'acte, de ce qu'on ressent de la violence de l'outil sur le bois, c'est quelque chose qui m'a plu en fait au départ. Ça, c'est que quand j'ai choisi de travailler du bois, ce qui me plaisait, c'est que c'est un matériau vivant, que le bois, c'est un peu comme la fibre, ça me fait penser à la fibre du corps, parce qu'il y a ses veines, il y a la sève qui passe dedans, comme le sang passe dans les muscles. Et d'ailleurs, quand tu travailles du bois qui est frais, vraiment frais, suivant à quel moment il a été coupé, parfois tu as de la sève qui coule comme si tu coupais de la chair et que tu avais du sang qui coule. C'est assez impressionnant. Je me rappelle en particulier avoir travaillé du platane qui avait été coupé sûrement pendant les montées de sève. Il y avait beaucoup de sève dedans, et le platane, quand il est tout frais, il est presque rouge, et quand tu le coupes, la sève qui coule est presque rouge, enfin très foncée, et c'est très étrange, quoi. Ça faisait une sensation bizarre de couper comme de la chair. Et l'outil tronçonneuse que j'ai choisi dès le départ pour attaquer les billes de bois, ce qui me plaisait, c'est que c'est un outil en effet qui est assez incisif, avec lequel tu peux rentrer dans la matière comme tu le ferais dans une matière qui est tendre, alors que le bois, c'est une matière résistante. Et le fait de m'attaquer à des grosses billes de bois, c'était aussi cette idée-là. J'avais envie de pouvoir me confronter à une matière qui, au lieu que je sois comme autour de cette matière, j'avais envie que la matière soit presque autour de moi, et pouvoir aller physiquement à l'intérieur de cette matière. D'où le choix des gros formats au départ. En effet, quand je travaille le polystyrène, c'est tout à fait une autre type de démarche, puisque là, je vais plutôt réfléchir comme quelqu'un qui va construire. Je vais réfléchir par terme de bloc d'assemblage, de collage, pour créer le volume de départ qui est déjà presque la sculpture. Ici, on en a juste un tout petit exemple d'un morceau de collage. Où il y a un départ de personnage que j'ai finalement changé après. Donc il y a juste quelques blocs qui forment des jambes, une paire de jambes avec un buste et une tête, sur lesquels, comme on peut voir là, j'ai déjà donné un mouvement. Dans le collage, il y a déjà presque l'attitude de la sculpture qui va venir après. Ça prend du temps à faire ça, mais c'est un grand gain de temps après aussi. C'est-à-dire que si le collage est réussi, si l'assemblage est bon au niveau des formats et au niveau du mouvement, c'est presque gagné, la sculpture est presque faite, parce que quand je vais tailler, si je ne fais pas n'importe quoi, ça va sortir de toute façon.
Tu as déjà les proportions en fait, globales qui sont en place, le mouvement...
Le mouvement est déjà là, oui.
L'intention est déjà très forte.
C'est déjà comme ça que je travaillais en billes de bois. Alors là, ça ne se voit pas, mais que je travaillais en bois. Si on le voit sur cette pièce-là, quand je travaillais avec des formats de bois plus petits, parce que bon, ce n'est pas le bon exemple, ça, mais avec celle-ci, on voit mieux. Quand je travaillais avec des formats de bois plus petits, je travaillais avec une petite bille pour une jambe, une petite bille pour l'autre, une bille un peu plus grosse pour le buste, etc. Et l'assemblage était déjà un peu comme avec le polystyrène. J'assemblais, je faisais juste les tailles nécessaires pour pouvoir assembler les billes de bois. Et donc j'avais déjà le mouvement sous format de billes de bois encore brutes. J'avais déjà le mouvement de la sculpture qui allait naître après. Le choix du matériau, il est vraiment... Alors il est lié souvent à des contraintes techniques. Par exemple, moi, les œuvres suspendues, là on n'en voit pas, mais j'en ai fait plusieurs. Les œuvres suspendues, surtout ces grands formats, en bois, c'est quand même très compliqué, pour des histoires de poids principalement. Et puis dans les espaces publics, il y a des contraintes de sécurité à respecter, enfin bon, des différents facteurs comme ça. Là ici, c'est presque. Là, c'est, ces trois sculptures-là, c'est du cèdre. Alors, le cèdre, ça a un double avantage, c'est que d'une part, ça tient très bien à l'extérieur. Ça ne se fait pas trop attaquer par les bêtes, ou pas du tout. Et ça résiste bien aux intempéries, c'est-à-dire l'eau va le mouiller, mais va pas tellement l'abîmer. Ça va changer la couleur, il va devenir gris. Un beau gris, d'ailleurs, assez argenté comme gris. Et il fend relativement peu. Donc on voit qu'il fend quand même. Mais le frêne qu'on voit ici fend beaucoup plus au départ. Et puis ça, c'est de l'acacia. C'est du robinier, parce que c'est du faux acacia.
Mais les fentes,
celui-là,
tu les anticipes un petit peu ou tu...
J'essaie de les anticiper. Ouais. Mais on ne les voit pas toujours à l'avance.
C'est pas évident. Pas...
Si je vois qu'il y a des nœuds, je sais à peu près où est-ce que ça va fendre. J'essaye de placer les fentes de façon intelligente, mais par exemple, sur cette main, je ne savais pas que ça allait fendre là.
Ça a fendu après.
Ça a fendu après, ouais. Si je l'avais su, je ne sais pas d'ailleurs ce que j'aurais pu vraiment faire.
Rapport
au format,
moi, elle me dérange pas.
Tourner de façon à ce que la fente apparaisse là, mais finalement, c'est intéressant aussi.
On a l'impression que tu as fait exprès. Hein.
Ça fait une rupture dans la main et, ça crée une autre ligne qui est intéressante aussi. Et là, j'ai vu ce matin que... J'ai retravaillé la forme hier, et j'ai vu ce matin que ça, dans la nuit, là, ça a fendu comme ça. C'est assez étonnant, au niveau du poignet, comme si ça crée comme un poignet cassé, c'est assez étonnant.
Parce que le fait de la travailler, tu réduis des surfaces, tu réduis des zones...
Tu enlèves des endroits de tension, en fait.
Ça relâche.
Le bois, il fend principalement. La raison du bois qui fend, qui explose, c'est qu'il ne sèche pas de la même façon à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque à l'extérieur, il a une surface de contact avec l'air, donc il va sécher plus vite. Quand le bois sèche, il se rétracte. Comme l'intérieur ne s'est pas rétracté de la même façon en même temps... Il
ne
peut pas se serrer complètement, donc il prend de la place en craquant. En gros, c'est ça le principe.
Oui, d'accord.
Donc, quand tu enlèves de la matière, tu vas refaire surgir une zone qui n'était pas encore aussi sèche que celle qui était à l'extérieur. Donc, tu vas changer la façon dont le bois sèche et potentiellement faire apparaître de nouvelles fentes.
Moi, je trouve que les fentes, là, elles sont vraiment... Elles ont le même rôle, enfin, où elles... Ce qu'on disait de la texture et de la violence du geste et de... Enfin, que les matériaux respirent comme ça, on la sent aussi, cette violence dans les... Enfin, on sent cette tension dont tu parles, donc le bois qui fend, et ça fait vraiment partie de...
C'est parti du travail.
Du travail et puis de l'œuvre, de la sculpture fin. Quoi.
Ouais.
C'est vrai que cette tension dont tu parles, c'est ce que j'aime beaucoup dans les sculptures de bois.
Ouais.
Je la retrouve moins effectivement dans les polystyrènes, en termes de tension, dans le souci de dessin en fait. Tu vois aussi, du coup, tu as un dessin qui est tendu là sur le bois et qui est un petit peu moins.
Un peu moins. En fait, qu'il est bien...
Moins évident,
qu'il est, quand tu vois les sculptures en polystyrène avant la résine, tu as cette tension aussi.
Ouais.
Et malheureusement, la fibre de verre et la résine je viens appliquer sur la forme...
Ça annule un petit peu, ça ramollit
un peu la forme. Ça enlève beaucoup de détails, et ça enlève parce que quand je taille au fil chaud, il y a aussi un phénomène de stries qui sont dus au passage du fil. Qui est moins volumineux que celui que laisse la dent de la tronçonneuse, mais quand même qui existe. Et c'est très beau cette matière, la lumière accroche bien dessus. Malheureusement, impossible de restituer ça en résine, sinon il faudrait créer un moule qui est très laborieux à faire, qui ne m'intéresse pas, d'autant plus que je fais des pièces uniques, donc ça ne sert à rien de créer un moule pour faire un seul tirage.
Très, 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 très fine.
Donc du coup, ce n'est pas possible de restituer ça. À part avec la fonderie, parce qu'avec la fonderie, comme tu viens mouler la forme brute, et que le moulage il est très précis, tu peux restituer ce genre de petites choses. Ce que tu parlais tout à l'heure de la tension du bois, tu vois ici dans cette tête, le bois était très accidenté, il y avait des parties de creux où l'écorce rentrait dans le tronc, et ça crée des lignes sombres, que j'ai gardé volontairement, que là j'ai placé justement volontairement. Parce que ces têtes, comme vous pouvez le voir ici, ces deux têtes sont des têtes sur lesquelles j'ai travaillé un visage, alors que d'habitude, je ne travaille pas les visages. D'habitude, je fais des têtes sans rien dessus. Et quand je fais des têtes en bois comme ça, ça, c'est une série que j'appelle A, et puis des chiffres derrière, par exemple A001, qui veut dire anonyme 001, c'est la première. Ensuite, F pour février, par exemple, et 10 pour l'année. Ça, c'est la première. C'est des têtes réalisées en 2016, je crois, que j'ai ressorti récemment là, pour les retravailler un peu. Et donc, ces têtes, elles sont couchées de façon horizontale avec un morceau de cou. C'est pas comme des têtes coupées. Pour moi, c'est des portraits anonymes de migrants. Et, c'est une série que j'ai fait, que j'ai commencé, puis que je continue à nourrir. Et c'est un hommage que je voulais faire aux migrants qui restent au fond de la Méditerranée ou ailleurs, quand ils essayent de changer de territoire pour avoir une vie meilleure. Et, donc, c'est des têtes qui sont comme une personne. Ils sont dans une attitude relativement douce. Ils ont les yeux clos. C'est comme s'ils étaient dans un dernier repos et que voilà, ils avaient trouvé un endroit où ils étaient bien maintenant, ça y est. Et le bois, je l'ai choisi justement accidenté comme ça, parce que bah, c'est leur histoire. Ça retrace leur histoire. Il y a une partie de cette série de têtes que j'ai brûlées au chalumeau. Brûlées de la surface, parce que c'était le départ de ce travail-là. Comme j'avais dessiné un visage qui ne représente pas une personne en particulier, qui représente juste un visage, j'avais envie de faire disparaître un peu ce dessin en le brûlant au chalumeau, comme eux se retrouvent à devoir faire fi de leur vie d'origine. Quand ils quittent leur terre pour aller ailleurs, ils sont obligés de brûler leurs papiers pour éviter qu'on la renvoie directement chez eux. Et bon, ils font fi de leur passé. Donc c'était l'acte de brûler le bois, c'était lié à ça. Là, ici, celles-ci ne sont pas brûlées.
Mais alors celles-là, elles ne sont pas brûlées, mais c'est vrai que ce que tu dis des fentes du bois, moi je trouve que quand on les voit comme ça, et particulièrement celles-là, en fait, ces fentes dans le bois ou ces blessures de l'arbre, on les lit vraiment comme des, on les voit comme des cicatrices en fait, oui, sur le visage. Enfin, c'est très très, c'est vraiment très clair là.
C'est parlant, ouais. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que bon, après, quand tu nous racontes cette histoire de, quand tu nous dis que en fait, ce sont des portraits de migrants, bah, ça prend une dimension un peu,
ouais,
comme ça, la dimension de d'épreuves, et on sait que qui sont parfois torturés des épreuves dans leur voyage jusqu'en Europe. Et emprisonnés, torturés, et du coup, ça, ces cicatrices dans le bois, elles prennent une dimension un peu plus précise, quoi, et plus forte. Et,
tu les poses au sol
Alors, j'en ai fait maintenant, je ne sais pas, 8 ou 10, et j'en ai pas souvent présenté, finalement. J'ai pas eu beaucoup d'occasions d'exposition dans lesquelles je pouvais les montrer. Malheureusement, j'aimerais bien, mais ça va venir sans doute. Et donc, il y en a une que j'ai montrée plusieurs fois. C'est la première que j'ai fait en bois brûlé. Je l'ai montrée au départ au sol, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu trop bas. Donc la dernière fois que je l'ai montrée, je l'avais rehaussée avec un petit socle. Là, elles sont présentées sur des palettes, et je trouve que ça convient assez bien aussi.
C'est ce que j'allais dire.
Parce que la palette, c'est
ce que j'allais te dire.
C'est quand même le...
ma question.
Ouais, c'est quand même venir, l'objet voulais... du transport.
Je voulais y venir, je trouve ça assez beau sur les palettes.
Ouais, parce qu'en plus, ça a du sens, parce que là, c'est des palettes type Europe. Les palettes Europe, c'est la norme, mais les palettes...
Oui,
la palette, c'est quand même l'objet, la structure avec laquelle tu peux transporter la marchandise. Et c'est ces gens qui cherchent à se trouver une terre meilleure pour vivre, ils sont vraiment transportés comme de la marchandise, voire même moins bien que de la marchandise.
Des objets. Oui, la marchandise, on voudrait la faire rentrer, alors que là...
Ouais, on voudrait la faire rentrer,
et puis on, pas
fait,
voir,
on y fait attention, et on voudrait pas la perdre en pleine mer. Exactement. Là, on en a rien à fiche, on les stocke.
L'anti-marchandise, par exemple.
Ouais, c'est cohérent, enfin, en tout cas, ces vieilles palettes, comme ça, là... Ouais. Peut-être aussi des palettes neuves, je ne sais
pas. Mais ça fait pas le même effet.
C'est... Mais c'est assez intéressant.
Je me déplace parce qu'en haut, là, ouais. Sur le rack à rangement, il y a une autre tête qui fait partie de la série. Je crois que c'est la première que j'ai fait verticale, celle-là. Parce que je me suis dit que parmi les migrants, il y en avait aussi qui arrivaient à destination, et donc heureusement. Et le fait de les montrer toutes couchées, peut-être c'était un peu morbide. Donc c'est un hommage aussi aux vivants, et donc il y en a aussi certaines qui sont verticales maintenant dans la série. Donc celle-ci, elle est voilà, elle est taillée que à la tronçonneuse, donc les traits sont plus bruts. Là, j'ai utilisé d'autres types d'outils aussi.
Ouais. Alors,
donc, c'est un peu plus dessiné là,
oui,
celle-là.
Et du coup, là, il y a des râpes, il y a des d'autres.
Il y a, oui, on travaille avec une mineuse. Donc c'est quand même des outils toujours très agressifs et relativement rapides. Tu vois ici, ce sont les outils. J'utilise des meuleuses et des disques à sculpter. C'est un disque avec comme une scie circulaire où il y a quatre dents dessus. Et sur une meuleuse, ça attaque très fort. C'est même très dangereux comme outil. Mais ça permet d'aller chercher des choses dans les creux avec lesquelles je ne peux pas très bien faire avec la tronçonneuse. Comme l'acacia, c'est très très dur comme bois, ça donne un aspect différent aussi.
Ces petites stries là,
c'est très beau ça.
Ces petites stries, c'est justement cet outil à sculpter, disque à sculpter, disque rond avec quatre dents. Et puis je trouve étonnant ce bois parce que tu vois, il est presque vert, il a une couleur jaune-vert. Et quand il va prendre la lumière, il va devenir brun comme ça. Donc il y a...
D'accord.
C'est très étonnant aussi. Je ne pensais pas qu'il devenait aussi brun après.
Oui.
Celle-ci était la même couleur, verte au départ.
Oui, il devient brun avec le soleil.
Avec le soleil, oui.
Tu te rends compte du brunissement qu'il y a eu quand tu te mets à retravailler et que tu arrives à une couleur plus.
C'est ça, là je suis revenu chercher la. Je suis revenu travailler dessus. Donc. Le bois est revenu à sa couleur naturelle. Il va redevenir marron par la suite. Et en extérieur, il changerait encore de couleur aussi.
Alors du coup, moi, il y a une question que je me pose depuis le début. Et c'est bien, enfin, on y vient un peu là.
Ouais.
Quand on est arrivé, on arrive dans l'atelier, comme ça on voit plusieurs sculptures qui sont dressées sur des palettes ou sur le sol, en bois, qui sont très grosses. Qui font plusieurs mètres de haut et qui ont parfois les pieds dans la sciure. Ouais. Et donc on a souvent l'impression qu'elles sont en train d'être travaillées. Et à la fois dans le récit que tu nous as fait jusque là, on comprend parfois que tu as ressorti des sculptures qui avaient été commencées il y a longtemps pour y retravailler maintenant. On voit les différences de couleurs des différents moments de travail, peut-être. Et on voit aussi, celle-ci, elle est peinte, ça ne peut pas se voir.
La radio, c'est difficile à voir.
Voilà. Mais on voit qu'elle a été peinte à un certain moment de sa construction, de sa sculpture.
Tout à fait.
Et que tu y es revenu, donc la couleur est râpée et la couleur est râpée par endroits et creusée, et on voit que tu as de nouveau enlevé de la matière dans un second temps de travail, quoi. Et par terre on voit aussi des morceaux de corps des parties de la sculpture qui
un
ont
doigt.
Été retranchées, qui ont été coupées.
Des doigts, en
effet. On voit des doigts, on voit des... Alors évidemment, ça résonne avec tout ce que tu disais sur le corps et...
Ouais.
Et le corps, enfin, tout un univers qui est celui du corps, avec un vocabulaire qui est celui un lexique qui est celui du corps, avec des blessures, des mutilations, des membres, et alors raconte-nous, je vais arrêter de parler, raconte un peu, ouais, du coup, comment, et selon comment tu travailles, comment, des fois ça s'étend sur des très longues périodes, t'arrêtes, tu recommences, etc.
Mais il se trouve que tu as tout à fait raison, là, les cinq sculptures qui sont sorties là, c'est des sculptures que j'avais déjà réalisées il y a quelques temps, dans des espaces, enfin dans des temps d'ailleurs assez étalés, hein, puisque celle-ci j'ai dû la faire en 2015, celle qui est peinte en rouge, les têtes en 2016 je crois, enfin bon voilà, donc ça c'est étalé, et la plus grande sculpture qui est ce personnage qui porte le rocher là, celle-ci date de l'automne dernier, donc c'est assez étalé. Donc toutes ces pièces-là, je ne les ai pas encore exposées.
D'accord.
Toutes ces pièces-là, je les ai réalisées à des moments où j'avais envie de faire ces pièces-là, parce que voilà, ça me tenait à cœur à ce moment-là, et que j'avais le temps de faire ça à ce moment-là, sans que ça soit destiné forcément à une exposition en particulier. Alors que très souvent, je suis occupé par la réalisation d'un ensemble de sculptures pour une expo, donc souvent autour de la même thématique, enfin d'une thématique que je traite à ce moment-là, et je crée des ensembles de sculptures. Donc souvent, c'est dans un but bien précis, pour un lieu bien précis, avec une temporalité définie, il faut tenir ce rythme, etc. Par moments, j'ai des trous dans ma programmation d'exposition, donc j'ai, je vais dire, enfin, en quelque sorte, un peu de temps pour expérimenter des choses. Et c'est dans ces temps d'expérimentation que je me permets d'explorer des pistes. Je fais ça comme un chercheur qui cherche des trucs. Dans un de ces temps-là, j'avais réalisé cette sculpture que j'ai peint en bois. C'était la première fois que j'essayais la couleur sur le bois. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer. Et puis, donc j'ai taillé la forme. Une fois que j'avais décidé que c'était bon, j'ai utilisé du pigment rouge que j'ai mélangé avec de la colle à bois pour créer une peinture qui soit vraiment adaptée au bois. Et ensuite, j'ai badigeonné la sculpture. Le bas de la sculpture, donc ses pieds et ses chevilles, je les ai recouverts avec de la fibre de verre et de la résine, dans laquelle j'ai mis du sable aussi. Donc tout ça, ça fait partie des expérimentations. Et cette sculpture, je l'avais donc mis dans un coin, et puis je ne l'ai pas montrée parce que je n'étais pas tout à fait satisfait. Donc elle a été restée parmi le stock de sculptures. Et puis ça faisait longtemps que je voulais la reprendre. Un jour je me disais bon je vais la détruire, le lendemain je me disais bon ah non il faut que je reprenne juste ça ou ça, donc, mais j'avais jamais le temps de le faire, donc là cette semaine j'ai pu faire ça, je l'ai ressorti, j'ai été un peu radical,
tu l'as coupé les mains.
Il y avait donc c'est un personnage debout qui a ses mains comme ça, ses bras tendus et ses mains qui étaient vers l'avant, et qui est dans une position un peu comme s'il marche et qui regarde vers le haut. C'était une position qui, enfin pour moi, ça correspond à un moment où j'étais en attente de certains trucs de mon travail qui ne venaient pas. Et donc, en fait, ce personnage, était, en quelque sorte, c'était moi avec ses deux mains comme ça qui attendaient. Et puis, mais je n'étais pas du tout satisfait par cette histoire de bras et de mains qui était trop symétrique et pas intéressante à mon goût. Donc, j'étais radical, je lui ai coupé les deux bras à des endroits différents. Et je trouve que finalement, ça répond mieux à ce que j'ai cherché à faire, c'est-à-dire, je voulais parler de l'aspect fragmenté de la sculpture, qu'on trouve dans la sculpture antique, qui a été traitée par de nombreux artistes, dont Rodin, par exemple, qui lui utilisait différents morceaux de sculpture en les réassemblant, et l'assemblage du bois, dans ma façon de travailler, ça résonne aussi avec ça. Donc là, le personnage, je l'ai retravaillé de façon radicale en me disant de toute façon, soit ça sort, soit ça va sortir et ça sera ce que j'attends, quelque chose que j'attends, soit c'est que c'est vraiment pas bon et je découpe tout en morceaux et c'est fini. Voilà, donc les deux bras, je les ai coupés, les mains cassées. Et maintenant, je trouve que ça, voilà, ça répond mieux à mes attentes.
La peinture qui la recouvre partiellement, elle... Du fait d'avoir été ensuite réattaqué par la tronçonneuse dans un deuxième temps de travail, la couleur qui devait être plus ou moins uniforme au départ, elle devient, elle devient vraiment active, quoi. Mmh. Les tranches qui ont été coupées dans un deuxième temps ressortent vraiment du fait qu'on les distingue des parties sculptées précédemment qui sont encore rouges, quoi. Et donc toutes les traces de tronçonneuses, d'outils, etc. ressortent beaucoup plus.
Ça met une dynamique, en fait. Hein. Ça met comme deux choses, du coup, différentes. Mm. Mais ça met un mouvement, ça met une dynamique intéressante. Hein,
je trouve aussi.
Alors, moi, je dirais plus que le mouvement, ce qu'on voit, c'est le temps, en fait.
Oui.
On voit le temps. Et moi, c'est toujours quelque chose que... Enfin, les peintres, les sculpteurs, on est tous à travailler avec... On a l'impression, en fait, de s'occuper d'espace et de volume, etc. Et moi, je me dis souvent que peut-être ce dont on s'occupe beaucoup plus sans le voir, c'est de temps. Quoi. C'est du temps, on fait avec du temps, et peut-être que notre matériau, c'est le temps, et que c'est ça qu'on essaye de... Enfin, voilà, ça, c'est ce que je vois de manière très claire quand je vois cette sculpture avec ses... Avec ses doigts coupés, je vois qu'il y a eu des moments différents et je peux lire quelque chose de cette temporalité en la regardant.
Je suis d'accord avec ça.
Et ça, c'est très fort. Et je pensais à un autre truc aussi. Je me disais que l'histoire du corps est une histoire très intrigante. Je ne sais pas, peut-être que je ressasse un peu des choses qu'on a déjà dit et sans aller bien loin. Mais... oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre le corps, entre l'arbre qui fait corps avec ses troncs, ses branches, son tronc et ses branches. Il y a quelque chose qui fait corps dans l'arbre et tu choisis d'une manière qui n'est sans doute pas hasardeuse de sculpter des corps. Ces corps se dressent comme les troncs, ils sont taillés dans le sens du tronc qui pousse. Et en les sculptant, tu les fais sortir de la gangue de bois où ils sont pris, et puis en continuant, et c'est ce qu'on voit dans cette sculpture rouge que tu as reprise, tu finis fatalement par les mutiler parce que tu peux pas, t'as pas d'autre choix finalement dans la poursuite de ton travail si tu veux continuer à travailler qu'à un moment attaquer ce corps qui est,
voilà, ça donne pas toujours lieu à des mutilations, parce que par exemple cette sculpture là cet autre personnage qui, lui, est légèrement penché vers l'avant avec les mains comme ça devant son corps, un peu détaché du corps.
En déséquilibre.
En léger déséquilibre, dans un moment de fragilité, en fait, un peu. C'est aussi une sculpture que j'ai fait dans un temps de creux comme ça, que j'ai déjà repris deux fois. C'est la deuxième fois que je la reprends. Je l'ai attaqué volontairement très brut. Donc, il est à la fois dessiné. Et en même temps, si on va voir dans le dos là, de la sculpture, beaucoup de coupes très brutes, où quand j'ai dégrossi, j'y allais franchement. Donc il y a des traces de tronçonneuses, des endroits qui ont été cherchés trop profond, en quelque sorte, mais qui me plaisent bien. Parce que ça raconte l'accident aussi de ce travail, qui était une volonté de faire sortir quelque chose rapidement et de façon un peu nerveuse. Et ce bois aussi, il a des endroits de d'écorce qui sont restés dans le corps, puisque c'était aussi un bois qui était assez accidenté. On voit ici, je crois, sur la cuisse. Et j'aime bien garder ces endroits de traces d'origine du bois, en fait. Donc là, il y a encore un tout petit bout d'écorce qu'on retrouve ici. Et dans mes premières sculptures, il y avait vraiment des endroits où il y avait des grands morceaux d'écorce qui étaient encore là, puisque je vais aller chercher de façon encore plus minimale la forme.
Le corps, c'est ton... Comment dirais-je, c'est presque ton support. C'est-à-dire, tu utilises le corps pour raconter tout un tas de choses. C'est ton langage, quoi. Enfin, à travers le corps, j'ai l'impression que tu évoques des... C'est assez métaphorique, ton travail, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait.
Tu veux toujours dire quelque chose.
C'est métaphorique, et c'est une sorte de jeu. Je crois que je crée une mythologie personnelle, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, ça ne se voit pas, parce qu'ici, c'est que des personnages, des figures humaines et des têtes humaines. Mais la présence animale est très, très importante dans mon travail, On ne le voit pas aujourd'hui.
On en voit là-haut, on voit des...
On en voit quelques-uns, il y a quelques chiens.
Des pièces emballées.
On aperçoit des chiens. Parce que dans, ce qui m'intéresse, c'est à la fois de retrouver ce qui reste d'animal encore en nous. Et en effet, comme tu disais, de parler de tout un tas de sujets, et souvent liés à des choses, comment dire, presque impalpables, les sentiments, les énergies, plein de choses différentes, mais que... Et le corps, que ce soit le corps humain ou le corps animal, est juste en effet un vecteur de ces idées, de ces ambitions. C'est même pas facile d'en parler, parce que la forme parle mieux que les mots, je trouve.
Mais alors toi, il y a une chose, évidemment, pour une grande majorité des peintres, on va dire c'est assez différent. De ton travail par rapport à la question de l'économie. C'est-à-dire, ouais. Toi, tu as un travail qui, dès le début, se pose la question de l'économie, puisque ça te coûte très cher. Nous, on peut toujours barbouiller avec 3 francs 6 sous, on va dire.
Ouais.
Toi, en tout cas, par rapport à ce type de travail, puisqu'il y a des sculpteurs qui vont travailler avec de la récupération, des choses comme ça, mais... toi, ça se pose immédiatement. Il suffit de voir une sculpture, on se dit, bon...
C'est sûr, l'économie dans ma façon de travailler, l'aspect budget est important. Je peux pas faire autrement.
Tu peux pas faire autrement.
Pour tout un tas de facteurs. La matière première elle-même qui coûte cher, l'espace nécessaire qui coûte forcément cher, etc. Après, j'ai eu la chance de... Enfin, la chance, c'est le... Et l'intelligence peut-être de commencer un travail comme ça, où c'est lié, mais dans mon temps d'études aux Beaux-Arts à Grenoble, maintenant quand même quelques années, j'ai ouvert des squats artistiques avec d'autres personnes. Ces squats artistiques, ça nous permettait d'avoir à la fois un endroit pour vivre et un endroit pour travailler. Un lieu qu'on appelait la baraque, qui était une ancienne friche industrielle énorme à côté du magasin, le Centre d'art contemporain de Grenoble, qui était le site Bouchat et Vialet, où il y avait des halles vraiment mais gigantesques. Donc mon premier atelier, c'était un bâtiment où j'étais tout seul dedans, qui devait faire, je sais pas, 3000 mètres carrés ou un truc comme ça. C'était vraiment géant. Donc j'occupais un tout petit morceau de cet atelier, et je me faisais livrer des camions entiers de billes de bois par la ville de Grenoble, qui venaient me décharger ça avec un camion ben qui levait carrément dans les hangars. C'était complètement fou comme endroit. Donc là, j'ai pas mal galéré, parce qu'à cette époque, j'avais zéro moyen. Donc j'avais acheté une tronçonneuse d'occasion sur les puces. Je savais pas me servir d'une tronçonneuse. Ça a démarré comme ça, l'histoire. Et puis, je bougeais mes billes de bois avec beaucoup de difficultés. Donc il fallait que je les travaille pas mal dans la position dans laquelle elles étaient, et pour pouvoir ensuite arriver à les bouger avec un palan et un portique que je m'étais fabriqué avec du métal de récupération. Enfin bon, c'était tout un peu aléatoire. Donc j'ai pas mal travaillé les premières années avec des moyens très faibles, mais c'était en effet très compliqué, et donc ça demandait encore plus d'énergie que ce que ça en demande encore aujourd'hui. Petit à petit, l'économie de mon travail m'a permis d'améliorer mes conditions de travail, puisque j'ai réussi à vendre des sculptures relativement rapidement, on va dire. Bon, même si au début je les vendais très peu cher, ça me permettait de faire rentrer un peu d'argent. J'étais enseignant en même temps à ce moment-là. Pendant les 10 premières années de mon travail après les études, j'étais enseignant, donc j'avais un salaire, et l'économie... s'équilibrer entre mes quelques ventes et puis mon salaire. J'arrivais à acheter le minimum de matériel, mais ça restait assez, assez précaire quand même. Puis petit à petit, j'ai réussi à rentrer dans un système où j'avais des ventes plus régulières, et puis surtout les prix de mes œuvres ont augmenté, parce que j'ai commencé à travailler avec des galeries. Et, donc les galeries, bon, bah, leur rôle, c'est aussi de faire monter la cote d'un artiste et pour elle-même gagner de l'argent. Donc... Ça m'a aidé en quelque sorte, ça m'a permis de me libérer en partie des contraintes liées au budget. Bon, après, il reste toujours, comme pour tous les artistes, quelque chose de très présent. Hein. Il n'y a pas de miracle.
Du coup, c'est vrai, enfin, tu l'as évoqué quelques fois, mais la question qui me vient maintenant, à ce propos, c'est de savoir si tu travailles souvent par commande ou pour des commandes, et ou si au contraire parfois ça part d'un projet spontané.
Ouais.
Et quelle est la part de ces deux choses-là finalement dans ton, dans la façon
ça, ça évolue,
tu...
ça évolue beaucoup même. Pendant, je sais pas, 15-20 ans, je faisais principalement des sculptures que j'avais décidées moi-même dans des thématiques que je maîtrisais pour des expositions, sans avoir de commandes du tout. Et puis petit à petit, j'ai répondu de plus en plus à des appels à candidature ou des appels d'offres pour des commandes publiques, des choses comme ça. Donc c'est devenu plus récurrent. Je fais des 1% artistiques, par exemple. Et puis petit à petit aussi, j'ai eu des commandes de privé. Mais ça reste, on va dire, minoritaire en fait, par rapport à la quantité de sculptures que je sors.
T'es quand même très souvent dans un rapport de production.
Je suis beaucoup plus dans un rapport de production lié à des expositions que dans un rapport de commandes. Même si là, ces deux dernières années, j'ai eu quelques commandes importantes qui m'ont pris beaucoup de temps, en fait, au niveau du temps passé à l'atelier. Mais au niveau du nombre de pièces, ça reste minoritaire.
Et du coup, par exemple, dans une expo, tu as un budget de production pour l'expo ou c'est uniquement si tu vends des
C'est
pièces
très variable, ça.
C'est très variable.
C'est très variable.
D'accord.
Quand c'est en galerie, la plupart du temps, il n'y a pas de budget de
Il n'y a pas de
production.
budget.
Il faut produire des pièces, donc ça m'arrive souvent d'investir beaucoup d'argent en espérant fortement arriver à en vendre au moins une pour rembourser
D'accord.
une partie ou la majorité de l'investissement. Après, je me dis toujours que les sculptures, elles sont là et qu'elles ne sont pas perdues dans le sens où je
tu les
pourrais les remontrer ailleurs et j'espère les vendre un jour. Il se trouve que j'ai quand même pas mal de stock parce que je produis pas mal et que je ne vends pas des sculptures tous les jours. Mais bon, j'en vends suffisamment pour arriver à vivre, c'est déjà bien. Et puis de temps en temps, maintenant, j'ai des projets d'exposition dans lesquels il y a un budget de production. Donc là, je peux me faire plaisir et travailler des pièces sans me sentir en danger.
D'accord.
Voilà. Mais bon, après, c'est comme pour tous les artistes, hein, il faut travailler avec son budget, équilibrer, trouver la limite de l'investissement nécessaire et puis raisonnable pour arriver à. Un peu se couler tout seul, mais voilà.
Ouais, t'arrives à trouver un équilibre quoi,
Moi, j'arrive à trouver un équilibre qui est facilité maintenant par le fait que quand je vends des grosses pièces, ça rapporte quand même pas mal d'argent d'un coup, donc ça permet de laisser du temps, si je gère l'argent correctement, ça permet de laisser du temps pour une vente ultérieure. Donc ça permet de tenir en fait. Dans les périodes où j'ai pas de dates butoirs qui sont liées à la réalisation d'un ensemble de sculptures pour une exposition ou une commande, j'ai donc ce temps libre qui est riche pour les artistes, enfin pour tout le monde, mais les artistes ont la chance de pouvoir en profiter plus que d'autres. Et là, je peux aller justement soit dans une démarche de recherche. Soit voilà, prendre du temps pour explorer une piste, revenir sur certaines pièces, améliorer un peu les conditions de travail à l'atelier en faisant un peu de travaux supplémentaires. Parce que bon, dans cet atelier qui est grand, j'ai fait pas mal de travaux en arrivant, mais je continue d'en faire. Donc il faut régulièrement revenir sur un truc, installer des lampes supplémentaires, installer un rack de rangement pour libérer un peu de place au sol, etc. Donc tout ça prend du temps. En fait, la logistique avec la sculpture, ça prend beaucoup de temps. Aller chercher les matériaux, ramener les déchets à l'usine ou à la déchetterie, etc. Tout ça prend beaucoup de temps. Je dirais qu'il y a, dans mon temps de travail, je dirais qu'il y a un tiers du temps qui est passé à la recherche, que ce soit en dessin, en dossier, en piste d'appel à candidature, etc. Un tiers du temps qui est passé à la création elle-même, à la réalisation de la forme, et un autre tiers du temps qui est passé soit à la finisation en fonction du type de matière, soit à la gestion logistique des déchets, des emballages. Il faut construire des caisses, voilà, tout ça prend beaucoup de temps. C'est pas la partie la plus intéressante à faire, mais c'est nécessaire, ça en fait partie.
Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres quand même aussi. Il faut absolument que je lui pose la question.
Ouais.
C'est l'histoire. Là, j'en reviens encore.
Ouais.
c'est la représentation de ce corps qui est très masculine.
Ouais, tout à fait. Hein,
qui est voilà, très affirmé sur le plan masculin, et il n'y a pas du tout de représentation de la femme.
Ouais, j'en ai très peu fait.
Donc j'imagine que c'est une question qu'on t'a souvent posée. Hein, je ne t'ai jamais entendu parler de.
Oui, mais c'est une question juste. Hein. En fait, la figure humaine apparaît dans mon travail maintenant il y a, 15-20 ans déjà, peut-être il y a un bon moment. Donc au départ, c'était que des animaux avec une sorte de bestiaire hybride qui représentait des gros quadrupèdes qui n'étaient pas ni un cheval, ni un ours, ni. Enfin, c'était un mélange. C'était des grosses bestioles. Qui était donc sans identité sexuelle non plus, sans genre, sans identité ramenée à une race. Et quand je suis parti sur la forme humaine, au début, ça a été un travail un peu hybride où j'ai créé des figures type mythologique avec des centaures, des choses comme ça, des animaux comme ça. Et puis, ça s'est fait tout seul finalement. La forme est apparue plus masculine. Au départ, le corps était peut-être plus neutre, c'est-à-dire c'était plus difficile de savoir si c'était vraiment un homme ou une femme, si ce n'est que je faisais pas d'attributs féminins, il n'y avait pas de poitrine, il n'y avait pas non plus vraiment d'attributs masculins. Il n'y avait pas de sexe, quoi, en gros. Mais les corps étaient assez massifs, je te parle du début du travail, les corps étaient assez massifs et donc, même quand il n'y avait pas d'attributs sexuels, on renvoyait ça plutôt au genre masculin. Et ce côté massif, ça venait du rapport à l'animalité et de mes premiers animaux qui étaient eux-mêmes très massifs, puissants en fait. Voilà. Donc j'avais envie de garder ce côté puissant dans le corps. Et puis, donc, ça avançait comme ça. Petit à petit, le genre s'est plus affirmé. J'ai fait des sculptures où il y avait vraiment des sexes dessinés, comme même celui qui est derrière toi. Bon, ça, c'est assez rare. Maintenant, je fais rarement le sexe dessiné, même si là, c'est relativement... Enfin, c'est l'ébauche, mais on voit bien ce que c'est quand même.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Il n'y a pas d'ambiguïté possible. La plupart du temps, je fais juste plutôt une sorte de bosse, en fait, en quelque sorte. Mais on reconnaît malgré tout, de toute façon, toujours le corps masculin. Je crois qu'aussi, j'ai plus de facilité à travailler le corps masculin, parce que moi-même je suis un homme et que quand je fais mes sculptures, souvent je prends l'attitude des sculptures pour ressentir la forme, ressentir le geste, le mouvement, et que quand j'ai besoin d'avoir des rapports d'échelle, de chercher si je suis juste ou pas, ça m'arrive souvent de me mesurer comme je peux.
Comme tu es immense.
Voilà. Bon, comme je suis immense, mais moi je suis immense et relativement fin. Alors que, pas très très musclé, alors que mes personnages, ils sont toujours très puissants, très musclés. Donc là, alors je sais pas si c'est une volonté de un rêve, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça, je me sers de moi comme un support, mais pas comme un modèle. Hein. D'ailleurs, je fais pas poser de modèle non plus. J'utilise relativement peu, ça m'arrive, mais j'utilise peu d'iconographie, de photos, de... ça m'arrive j'ai un livre ici sur la table d'anatomie, donc quand j'ai des doutes sur des trucs, je peux regarder ça, mais en fait, de la même façon que quand je travaille un animal, je travaille jamais avec un visuel sous les yeux, puisque ce qui m'intéresse, c'est de travailler un ressenti, une attention, une dynamique, une énergie, mais pas une représentation de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, je vais jamais copier quelque chose, ça m'intéresse pas du tout de faire ça. Donc, je vais, par exemple, pour la baleine, la façon dont j'ai travaillé, c'est regarder beaucoup de photos, me nourrir de beaucoup de visuels, faire quelques croquis sans avoir les visuels sous les yeux, et puis ensuite travailler sans m'occuper des visuels. Et quand j'ai un doute, par exemple sur la forme de la queue, j'avais des doutes, alors j'ai regardé des photos. J'essayais d'enregistrer l'image dans ma tête et puis ensuite je travaille, mais je m'en sers pas de façon directe, quoi. Je cherche pas à copier la forme, ça me semble pas pertinent par rapport à ce que je fais, ça n'a pas d'intérêt.
Ouais. Ouais, je trouve que quand on voit la, quand on voit le, la texture et cette violence dont on parlait dans tes sculptures, cette brutalité du contact, de la et puis de ce que les formes ont de très dessiné, on comprend très bien pourquoi tu n'as pas choisi des figures féminines. Je veux dire, on voit bien que le plaisir que tu prends à sculpter, c'est un plaisir de, comme ça, du muscle tendu, d'une anatomie qui est très
brute,
très brute et qui porte elle-même cette espèce de tension qui est la tension du bois, cette espèce de violence qui est la violence du coup de tronçonneuse. On comprend que tu t'es naturellement allé vers des
c'est juste voilà. Bien que le masculin peut être doux aussi,
bien sûr, mais je veux dire, moi je pense aux formes de, tu vois, quand Michel-Ange il peint ou il sculpte une femme, on dirait un homme, quoi, parce que t'as un dos qui est large, qui est puissant, etc., et qui est un dos d'homme.
Tout à fait.
Tu vois.
C'est d'ailleurs le cas aussi. J'ai fait quelques sculptures féminines. J'en ai quand même fait. Bon, là, on les voit pas, mais j'en ai quelques-unes. Et en effet, c'était pareil. C'était des femmes, mais avec une anatomie proche de celle d'un homme.
Exactement.
Et là, tu parles pas mal de la violence du travail à la tronçonneuse, etc. Dans mes sculptures. J'essaye toujours, parce que c'est aussi ma nature, mais d'avoir un rendu, c'est-à-dire que la forme, elle est taillée de façon assez agressive dans le bois, quand c'est dans du bois, idem quand c'est du travail dans du polystyrène, c'est des coupes franches, incisives, et en même temps, je cherche à avoir toujours quelque chose d'assez doux. De même que quand je parle des sujets difficiles comme celui des migrants et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, j'essaye toujours d'avoir, c'est toujours des allégories avec une distance, et pour laisser la place en fait au regardeur de se faire son histoire aussi. Je cherche pas mes sculptures, elles sont narratives, mais elles racontent pas une histoire vraiment précise. Elle raconte l'histoire de celui qui la regarde, comment il va la voir, qu'est-ce qu'il va vouloir voir dedans. En gros, c'est ça. Il y a toujours une distance par rapport au sujet. Je trouve que l'échelle monumentale aussi permet ça. En fait, tu ne peux pas regarder une sculpture de cette taille-là, qui est juste à côté de nous, là. De là où on est trop proche, en fait. On ne la voit pas bien. Pour la voir correctement, alors on peut s'approcher pour voir la matière, etc., mais pour la voir dans sa globalité, on va être obligé de prendre de la distance physique, de s'éloigner. Et donc ça permet aussi, je trouve, de voir peut-être le sujet aussi plus dans sa globalité. Le sujet physique, mais aussi le sujet, l'histoire qui est racontée à travers cette forme.